Bonjour, chers frères et sœurs. C'est mon plaisir ce matin d'être avec vous et en prolongement donc de la journée que nous avons passée hier, journée que j'ai beaucoup appréciée et journée que nous prolongerons cet après-midi. Et bien sûr, même si vous n'avez pas été là hier, vous avez encore la possibilité de nous rejoindre cet après-midi. Et j'aimerais faire un lien entre certains points que nous avons abordés hier et que je voudrais développer un peu plus ce matin au travers de ce thème du pardon et de la réconciliation. Et j'aimerais lire quelques textes. Le premier se trouve dans Matthieu 18. Alors Pierre vint lui demander au verset 21, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi il en va du royaume des cieux comme d'un roi qui voulait faire rendre compte à ses esclaves. Et quand il commença à le faire, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Et comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'on le vende, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait afin de payer sa dette. L'esclave tomba à ses pieds et se prosterna devant lui en disant, « Prends patience envers moi et je te paierai tout. » Ému, le maître de cet esclave le laissa aller et lui remit la dette. En sortant, cet esclave trouva un de ses compagnons d'esclavage qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et se mit à le serrer à la gorge en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, tombé à ses pieds, le suppliait « Prends patience envers moi et je te paierai ». Mais lui ne voulait pas. Il alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Et en voyant ce qui arrivait, ses compagnons furent profondément attristés. Ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître le fit appeler et lui dit, « Mauvais esclave, je t'avais remis toute ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir compassion de ton compagnon comme j'ai eu compassion de toi ?» Et son maître, en colère, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Éphésiens au chapitre 4. Verset 25. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, et ne laissez pas de place au diable. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres. Plein d'une tendre bienveillance, et faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Et enfin, un dernier texte dans l'Ancien Testament, Genèse au chapitre 45. Ce très beau texte où Joseph se fait reconnaître à ses frères. Et nous lirons à partir du verset 1. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient auprès de lui. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit reconnaître de ses frères. Et il se mit à sangloter. Et les Égyptiens l'entendirent. Toute la maison du Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie ?» Mais ses frères ne purent lui répondre tant ils étaient saisis d'épouvante en face de lui. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Voilà 2 ans que la famine sévit dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de rester en vie par une grande délivrance. En fait, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a fait père du Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Hâtez-vous de monter vers mon père et vous lui direz, « Ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a fait maître de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. » Verset 15. Joseph embrassa tous ses frères en pleurant. Après cela, ses frères purent parler avec lui. Joseph leur donne du ravitaillement, des vêtements. Et au verset 24, puis il laissa partir ses frères et ceux-ci s'en allèrent. Et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin. Ils montèrent d'Égypte et arrivèrent en Canaan, chez Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph est encore en vie, c'est lui qui gouverne toute l'Égypte. Mais son cœur resta insensible, parce qu'il ne les croyait pas, il ne les croyait plus. Ils lui dirent tout ce que Joseph leur avait dit. Il vit les chariots que Joseph avait envoyés pour le transporter. C'est alors que Jacob leur père reprit vie. Et Israël dit, « Cela suffit, mon fils Joseph est encore en vie, que je le voie avant de mourir. » Voilà un texte étonnant sur le pardon et sur la réconciliation. Et ce texte mériterait en tout cas des journées de réflexion et d'études. Parce que vraiment, c'est un pur joyau. Et ce que j'aime dans ces textes de l'Ancien Testament, c'est qu'ils sont véritablement comme des éclats de grâce. On a un peu parlé de la grâce hier. Et souvent, nous chrétiens, nous pensons que la grâce est plutôt du côté du Nouveau Testament. Et que dans l'Ancien Testament, c'est plutôt le thème de la justice et de la colère de Dieu, l'histoire de Dieu au travers de son peuple pour amener à cet événement extraordinaire que nous allons fêter dans quelques semaines. Mais on voit là, dans un texte comme celui-là, un pur état de grâce, un pur éclat de grâce. Et on voit dans l'Ancien Testament, mais il y a d'autres textes comme celui-là, eh bien la grâce grondée comme un fleuve souterrain. Et toutes les conditions ne sont pas réunies pour que cette grâce sorte de terre et puis vraiment se révèle d'une manière éclatante aux gens et au peuple. Mais on la sent gronder comme un fleuve souterrain. Et cette grâce pure et magnifique, objet de notre salut, raison de notre salut, source de notre salut, eh bien, pourra se révéler avec la naissance de notre Seigneur, comme le dit la parole, quand les temps furent accomplis. Alors, je ne sais pas comment vous recevez les textes que j'ai lus ce matin. D'abord celui de Matthieu au chapitre 18. L'insistance que Matthieu apporte et accorde à cette nécessité du pardon dans notre vie. Le pardon qui ne peut pas être une option. Le pardon qui est véritablement le signe de notre appartenance à Dieu. Et vous avez noté la conclusion étonnante de Matthieu à la fin de cette parabole du roi qui fait rendre compte à ses serviteurs. Eh bien, c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce n'est pas optionnel. Et le Seigneur vraiment n'a pas de mots assez forts, assez redoutables même, pour nous emmener véritablement à regarder cette nécessité du pardon comme quelque chose qui n'est pas facultatif dans notre vie. Alors j'aime beaucoup la question que l'apôtre Pierre pose au Seigneur. Combien de fois devrais-je pardonner ? 7 fois ? Non, je ne te dis pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. L'idée que le pardon doit devenir dans notre vie un peu comme une seconde nature, comme quelque chose qui répond véritablement à ce que nous sommes génétiquement en tant que chrétiens. Et pour que les choses soient très claires, le Seigneur raconte cette histoire reconnue comme la parabole de l'esclave impitoyable. Et en lisant l'histoire de cet homme qui doit 10 000 talents, je me demande bien ce que cet homme a pu faire pour avoir une telle dette à l'égard de son maître. Et peut-être que l'actualité récente nous permet un peu de comprendre les enjeux de cette histoire, notamment avec ce qui est arrivé à Jérôme Kerviel, qui a défrayé la chronique avec ces 5 milliards d'euros que sa banque lui réclame comme dommages et intérêts. 5 milliards d'euros. Jérôme Kerviel qui aujourd'hui a un salaire de 2 000 euros par mois. Et il y avait un journaliste qui avait calculé combien d'années, combien de centaines de milliers d'années il devait travailler pour pouvoir rembourser cette dette exorbitante. Mais voilà un peu notre situation devant Dieu, et qui nous fait vraiment comprendre la teneur de son pardon. Nous sommes insolvables, totalement insolvables. Nous n'avons aucun moyen de rembourser à Dieu la dette que nous avons contractée à son égard. Et notre seule chance, notre seule source de salut, notre seule possibilité de sortir de cette impasse mortelle, c'est véritablement de pouvoir compter sur la bonté de ce maître qui se laisse émouvoir par le regret. Il y a vraiment quelque chose d'injuste dans le pardon. Vous ne trouvez pas ? Il y a vraiment quelque chose de profondément anormal. Quelque chose qui n'est pas humain. Comment se fait-il qu'une telle dette puisse être remise parce que cet homme a juste reconnu qu'il ne pouvait pas rembourser ? Cet homme se prosterne, tombe aux pieds du maître et supplie son maître, invoque son maître pour que ce maître prenne patience. Et je suis touché, profondément touché, de voir que Dieu, image de ce maître, se laisse émouvoir par nos regrets. Et il n'en faut pas moins pour qu'il puisse nous remettre d'une manière complète, totale, cette dette qui nous rend totalement insolvables à ses yeux. C'est injuste. Et ne vous méprenez pas quand je dis cela. Je pense que dans la grâce, il y a quelque chose de profondément scandaleux. Et si nous regardons la grâce comme quelque chose qui coule de source et comme quelque chose qui nous est dû, alors on fait vraiment totalement fausse route. Quand Jésus raconte dans la parabole des ouvriers qui arrivent à des heures différentes, le fait que ce maître, le même maître, accorde à celui qui a travaillé une heure le même salaire que celui qui a travaillé 11 heures. Aucune société ne peut fonctionner comme ça. Aucune entreprise ne peut fonctionner comme ça. Et aucun patron ne serait en mesure de motiver vraiment durablement ses ouvriers, ses employés, ses collaborateurs, si celui qui a travaillé une heure gagne le même salaire que celui qui a travaillé 11 heures. Ce n'est pas travailler plus pour gagner plus. C'est travailler moins pour gagner pareil. Scandaleux. Il y a dans la Bible comme ça des histoires qui, d'un point de vue humain, d'un point de vue économique, hein, si on en reste à une logique économique, sont des scandales. Et dans cette histoire des ouvriers qui arrivaient des heures différentes, qui nous parle également de cette grâce qui vient de Dieu et qui coule comme un fleuve puissant, eh bien, cette parabole, cette histoire nous rappelle que Dieu n'accorde pas des salaires, que Dieu accorde des dons gratuits, gracieux. Des dons qui ne dépendent, ni de ce que nous faisons, ni de ce que nous ne faisons pas. Et il me semble que cette parabole du serviteur impitoyable est là pour nous rappeler cela, hein, face au pardon que Dieu nous accorde, face à sa grâce qui coule du ciel comme un fleuve immense et dans laquelle nous devons nous plonger. Je ne peux rien faire de plus pour que Dieu m'aime plus. Et il n'y a rien de moins que je puisse faire pour que Dieu cesse de m'aimer ou que Dieu m'aime moins. Rien de plus, rien de moins. Alors on peut être surpris que le serviteur de la parabole de Matthieu 18 n'ait pas été touché par cette grâce. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de son attitude quand il va voir son compagnon de service qui lui doit 100 deniers, dont vous avez bien noté, et là la parabole, je crois, veut nous rendre vraiment sensibles à cela, le décalage qu'il y a entre les 10 000 talents et les 100 deniers. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de ce serviteur qui réclame à son compagnon de service ses 100 deniers? Qu'est-ce que vous pensez? Pardon? Il y a certainement un peu de ça, oui. Ingrat. Pardon? Il n'a pas compris grand-chose, c'est vrai. Mais... Eh oui. Moi, je pense plutôt à ça. C'est-à-dire, je ne pense pas que le problème de cet homme soit seulement un problème d'ordre éthique ou moral. L'ingratitude. La capacité de ne pas tirer des conséquences de ce que son maître a été pour lui. Je ne serais pas surpris, et là j'avance cette interprétation et que certains partagent et que d'autres ne partagent pas, Je ne serais pas étonné que cet homme, effectivement, cherche à rassembler de l'argent pour rembourser son maître. Parce que, au fond, est-ce qu'il se croit vraiment pardonné? Est-ce qu'il pense vraiment que sa dette est remise? Et il me semble que là, nous avons une indication très précise sur ce que nous devons vivre à l'égard de ce pardon. Si nous voulons vraiment à notre tour pardonner de tout notre cœur, eh bien, nous devons commencer par croire intimement, profondément, que nous sommes pardonnés. Et je comprends véritablement l'avertissement du maître à la fin de la parabole, véritablement dans cette perspective-là. Le problème de cet homme est un problème spirituel. Il ne croit pas vraiment qu'il est pardonné. Et il craint peut-être, et la peur nous fait parfois faire des choses tellement incroyables, que peut-être son maître va se raviser, peut-être que son maître va revenir à lui et exiger le remboursement de la dette. Donc il faut qu'il économise un petit peu. Et la peur, le doute, le manque de foi l'emmène à devenir tyrannique envers son compagnon de service. Seigneur, aide-nous vraiment à croire de tout notre cœur que nous sommes pardonnés. Et que ce pardon nous amène véritablement à ne pas rentrer dans des calculs dans nos relations, les uns avec les autres. Et le thème du pardon est véritablement central, aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien. Et il est important que nous soyons sensibles aux implications que ce pardon doit avoir dans notre vie. Et je pense que Joseph, dans Genèse 45, a beaucoup à nous dire sur, d'une part, le pardon que nous sommes invités à offrir. Et puis, ce pardon que nous offrons, quelle en est la source? Et qu'est-ce qui va véritablement nous permettre de rentrer dans ce pardon d'une manière authentique et d'une manière complète? Alors, je ferai trois observations sur le récit de Genèse 45. Trois observations qui montrent la puissance unique du pardon. Première puissance du pardon, le pardon peut à lui seul mettre fin au cycle de l'accusation, de la souffrance, de la violence, en brisant d'une manière irréversible la chaîne du manque de grâce. Voilà la première chose que nous dit l'histoire de Joseph. Joseph est en situation de pouvoir se venger. Joseph est en situation d'autorité pour pouvoir exercer une vengeance implacable à l'égard de ses frères. Et vous savez, quand j'entends Joseph dire à ses frères « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu, bande de crapules, bande d'ordures. » Alors, je ne sais pas si Joseph en est resté juste à ce qu'il a dit. Mais on ne traite pas un frère comme ça. Un frère, c'est un frère. Et ce que vous avez fait, ce que vous avez comploté, est d'une gravité extrême. Eh bien, Joseph aurait pu laisser libre cours à sa vengeance. Joseph a compris que seul le pardon peut mettre fin à ce cycle infernal de la vengeance, de la violence, de la guerre, de la destruction des fratries, de la destruction des familles. Vous avez noté le vieux Jacob, quand ses enfants viennent lui dire que Joseph est encore en vie, le texte nous dit que Jacob resta de marbre. Et pourquoi il reste de marbre? Essayez d'imaginer une famille qui, pendant des années, se construit, se structure autour du mensonge. Le mensonge que les frères ont véhiculé, ont fait croire au père. Eh bien, le père reste de marbre. Parce que quand le mensonge vraiment s'installe dans une famille, alors la fin de cette famille n'est pas loin. La deuxième observation que je ferai et qui montre encore cette puissance unique du pardon, ce pardon qui met donc un terme à l'escalade de la violence et de la haine, eh bien le pardon est la seule puissance que Dieu met à notre disposition, qui permet de libérer le coupable. Seul le pardon permet au coupable de sortir de sa prison de culpabilité. Seul le pardon offert librement, volontairement, permet au coupable de sortir de la prison de sa honte. Seul le pardon permet au coupable de sortir du recroqueviment sur soi, du repliement sur soi. Et là, nous avons un indice très fort dans ce texte. D'une part, le fait que les frères sont terrorisés devant leur frère Joseph, qui va certainement se venger de manière implacable. Et là, le texte nous dit qu'ils ne peuvent lui parler. Tellement ils se sentent coupables, tellement ils ont peur, tellement ils redoutent la réaction de leur frère. Et vous avez noté ce magnifique verset 15. Une fois que le pardon est accordé, après cela, ses frères purent parler avec lui. Voilà la puissance extraordinaire du pardon. Quand les liens sont brisés, quand la honte nous habite, quand le remords nous ronge, quand ce que nous avons fait, ce que nous avons dit, ce que nous avons pensé a mis les autres en prison. Eh bien, le pardon est la seule puissance qui nous permet de sortir de cette prison. La seule puissance qui peut relâcher l'étreinte de la culpabilité du coupable. Vous savez que dans le Nouveau Testament, le mot grec le plus utilisé pour le pardon signifie littéralement « relâcher »,« lancer au loin », »,« se libérer ». Et en ce sens, le pardon est un véritable acte de liberté. Et parce que le pardon renonce au ressentiment qui s'accroche au passé, vous savez, ce ressentiment que nous faisons revivre maintes et maintes fois, eh bien, il nous libère véritablement de cette étreinte. Et enfin, la troisième observation, et ce texte nous le montre vraiment d'une manière étonnante, le pardon et aussi le moyen que Dieu me donne pour trouver un sens à ma vie. Un sens à ce que je vis. Un sens aux épreuves peut-être auxquelles j'ai été confronté. un sens à la dureté, peut-être, à laquelle mes proches, ma famille, ma fratrie m'ont confronté. Et quand Joseph dit à ses frères, « Maintenant, n'ayez pas peur, approchez-vous de moi, n'ayez pas peur. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici, car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé devant vous. » C'est à mes yeux le texte le plus fascinant de l'Ancien Testament. Comment, à partir d'une épreuve aussi redoutable, aussi terrible, aussi meurtrière, un homme peut dire « Maintenant, ce n'est pas vous. » Maintenant, ce n'est pas vous. Ne soyez pas affligés. Car en fait, Dieu est souverain. Et c'est lui qui, au travers de ce que vous m'avez fait vivre, qui va permettre demain une grande délivrance. Donc approchez-vous de moi. Parce que même dans son désordre absolu, il y a un chef d'orchestre. Et même si ça n'enlève rien à l'offense et au péché terrible que ses frères ont commis, péché grave pour lequel il faut une repentance. Le pardon et ma compréhension du pardon donnent du sens à ma vie, donnent du sens à mon existence. Même quand ce que je vis, et surtout à cause des autres, ne me permet pas toujours de comprendre ce que Dieu fait. Même quand ce que je vis, parfois, me donne l'impression de contredire ce que je sais de Dieu, de sa générosité, de sa bonté, de son amour, de sa prévoyance, de sa diligence. Maintenant, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Il m'a conduit jusque-là. Et s'il l'a fait, c'est pour amener une grande délivrance. Alors, je ne voudrais pas vous donner l'impression que je passe très facilement de l'offense à la réconciliation. Et ce texte de Genèse 45 ne me permet pas, en tout cas, de sauter immédiatement comme ça d'une offense aussi grave à une réconciliation aussi radicale et aussi totale. Vous savez, le pardon et la problématique du pardon, quand le Seigneur nous demande de pardonner de tout notre cœur, est à mes yeux une problématique extrêmement complexe. Et souvent, je vois dans nos églises une méconnaissance de ce sujet, une méconnaissance des implications et des enjeux qu'il y a dans cette démarche du pardon. Et il me semble que Joseph est encore là pour nous montrer que ce n'est pas aussi simple que cela. Et ce pardon et cette problématique du pardon est un sujet tellement sensible que nous avons invité le 19 décembre Jacques Buchold, qui est certainement celui qui, dans le monde francophone, a le mieux décrit, compris tous les enjeux de la problématique du pardon. Jacques Buchold, donc, qui va venir à Mission Vie et Famille pour nous donner encore un exposé contradictoire entre les convictions que nous avons et convictions que nous nous sommes faites, notamment autour de son livre « Le pardon et l'oubli », un excellent livre sur le pardon. Et ce que nous avons demandé à Jacques, c'est de venir d'une manière contradictoire un peu entre ces convictions que nous avons pour pouvoir étudier d'autres positions, d'autres conceptions qui peut-être ne rejoignent pas toutes les convictions et toutes les positions que Jacques Buchol nous a permis de construire au fur et à mesure de notre ministère. Et j'attends ce jour avec beaucoup d'impatience. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas une problématique simple ? Il me semble que dans le pardon, il y a 9 étapes. 9 étapes qui peuvent prendre parfois des années à se dérouler. Et que trop souvent, dans nos milieux chrétiens, on a tendance à vouloir raccourcir. Tendance à vouloir court-circuiter. Sans se donner vraiment le temps et la peine de passer par chaque étape. Alors ces 9 étapes, je ne vais pas les développer, mais je voudrais juste les lister et vous montrer à quel point ça mériterait en tout cas une étude approfondie. La première étape, le premier élément de la démarche du pardon, c'est bien entendu l'offense. On ne parlerait pas de pardon s'il n'y avait pas d'offense. L'offense que l'Écriture présente comme une dette. Quelqu'un fait, dit ou pense quelque chose sur moi, et dans le contentieux que cela génère dans ma relation avec l'autre, eh bien, j'estime que l'autre me doit quelque chose. Il m'a fait mal, il m'a blessé, et cette blessure me fait souffrir, et ce quelqu'un qui m'a offensé, eh bien, il a une dette à mon égard. Et le Nouveau Testament utilise souvent ce vocabulaire de la dette, du débit, du débiteur, pour exprimer vraiment toutes les enjeux et toutes les conséquences de l'offense dans ma vie. Et la première conséquence de l'offense, c'est qu'évidemment, elle brise la relation avec celui qui m'a offensé. Première étape, l'offense. L'offense qui est contre moi. L'offense qui est présentée dans l'Évangile comme un péché contre moi. Une blessure contre moi. L'offense est terriblement personnelle. Et personne ne peut porter les offenses que les autres me font subir. Et dans le cas de Joseph, cette offense, eh bien, c'est les frères qui vendent leurs frères aux Ismaélites. Parce qu'ils ne peuvent plus parler avec amitié à leurs frères, nous dit le texte, et qu'ils ne supportaient pas de voir que leur père le préférait à eux tous. Mais on se débarrasse de celui qui nous gêne. La deuxième étape dans la démarche du pardon, c'est, à mes yeux aussi, et que je pourrais soutenir par des versets bibliques, la colère. Quand je suis offensé, quand je suis piétiné, quand je suis humilié par l'attitude ou les gestes de quelqu'un, la colère est en moi. Et pour ceux qui étaient là hier, c'est dans cette perspective que nous devons comprendre l'exhortation de l'apôtre Paul. Mettez-vous en colère et ne péchez pas. Cette colère dont il est question dans Éphésiens 5 est bien entendu la colère qui vient quand quelque chose de profondément injuste, profondément inadapté m'atteint. Il ne s'agit pas de la colère malicieuse, comme disent les théologiens, il ne s'agit pas de la colère méchante, il ne s'agit pas de la colère vengeresse, il s'agit de cette colère qui monte en moi quand je suis atteint dans mon intégrité, quand je suis atteint dans ma dignité, quand je suis atteint dans mon corps, dans mon moral, dans ma vie spirituelle. Quand Jésus voit des commerçants et des commerciaux dans le temple, la colère monte en lui. Et ce n'est pas une colère capricieuse, c'est la colère d'amour, comme disait Luther. La colère d'amour qui ne veut de mal à personne, mais la colère d'amour qui est hostile au péché, hostile à ces souffrances que parfois on me fait subir. Et il ne faut jamais sous-estimer la colère de quelqu'un d'offensé. Et souvent, quand quelqu'un offensé vient nous voir dans l'église et qui nous exprime sa colère et que tout de suite on lui demande de pardonner, il y a plein d'étapes qu'on a oubliées. Psaume 37, verset 7. Abandonne la fureur. La troisième étape dans la démarche du pardon, c'est la rupture de la relation. La rupture de la relation. Et j'aime beaucoup ce que dit le proverbe 27, verset 17. Un frère offensé est pire qu'un donjon. C'est une forteresse. Et les portes dans cette forteresse sont en plus verrouillées. Cette idée que l'offense eh bien, génère et crée cette rupture dans la relation et qu'il n'y a plus possibilité d'avoir des relations avec quelqu'un qui nous a offensés. C'est ce que nous montrent les frères de Joseph. Ce qui nous montre cette longue histoire qui se déroule sur plusieurs versets dans la Genèse et qui montre que ça a pris du temps. La quatrième étape de la démarche du pardon est, à mes yeux, la plus importante. Celle qui consiste à remettre ses griefs à Dieu. Celle qui consiste à remettre sa colère à Dieu. Ce qui consiste à remettre ses ressentiments à Dieu. Dieu qui est le seul, absolument le seul, qui peut prendre ma colère, qui peut l'accueillir, qui peut l'apaiser. Et pourquoi je dois remettre ma colère à Dieu? Parce que j'ai besoin d'être apaisé, j'ai besoin d'être pacifié. Si je reste avec ma colère en moi, il y a de fortes chances que je devienne meurtrier. Abandonne la fureur. Mettez-vous en colère, mais ne restez pas en colère. Ne basculez pas dans cette attitude où le ressentiment est remâché, est entretenu, est ravivé en permanence. Et j'aime beaucoup les psaumes dans l'Ancien Testament, ces psaumes de colère, hein. Ces psaumes qui sont des prières, mais qui sont aussi des colères exprimées à Dieu, et où le psalmiste s'épanche devant Dieu et ne reste pas dans une démarche intérieure spirituellement correcte, où on dit que des choses douces et gentilles à Dieu, mais ces colères qui nous permettent de dire à quel point nous souffrons. Et la remise des griefs, la remise de la colère, est une étape indispensable dans le pardon. Et puis il y a l'étape 5. Cette étape 5, magnifiquement résumée par notre Seigneur Jésus. Si ton frère a péché contre toi, c'est quoi la suite? Va et reprends-le. Osez refuser. Que nous avons vu hier. Osez dire à son frère, osez dire à sa sœur, osez dire à son mari, osez dire à sa femme, ce que tu as dit, ce que tu as fait, m'a fait mal. Ce n'est pas juste. C'est ce qui se passe sur tous les terrains de sport de la planète, quand un joueur fait quelque chose qui n'est pas adéquat, on sort le carton rouge ou le carton jaune en fonction de la faute commise. Et il me semble que « va et reprends-le », c'est véritablement cette nécessité de dire à l'autre qui a fait quelque chose de grave, de pas adéquat, « ce que tu as fait n'est pas juste ». Et vous savez, quand on évite de faire cela, quand on n'ose pas aller reprendre ceux qui nous ont offensés, on prend le risque de les installer dans une sorte de culture de l'impunité. Et cette culture de l'impunité conduit inévitablement à une culture de la médiocrité. Et relisez les textes de 2 Samuel 13 à 19 après l'inceste raconté en 2 Samuel 13 entre Amnon et Tamar. Absalom qui dit à sa demi-sœur: « C'est pas grave, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. » Le roi David qui ne dit rien à son fils, même s'il se met en colère, pas de sanction. Et j'ai une remarque dans ma NBS qui dit, il y a des textes anciens qui rajoutent, il ne fit pas de la peine à son frère Amnon, à son fils Amnon, parce qu'il le voyait, il le considérait comme son fils premier-né. On épargne ce que nous aimons. On fait comme si de rien n'était. La culture de l'impunité qui se traduit par une culture de la médiocrité. Va et reprends-le. Va et dis-lui, j'ai mal. Ce que tu as fait n'est pas juste. Tu as bousillé ma vie, passez-moi l'expression. Tu as cassé tous les ressorts, moi. Tu as cassé ma fécondité. Tu as brisé ma créativité. J'ai même entendu une fois quelqu'un dire « Tu m'as rendu eunuque ». Vous savez, ces eunuques dont Jésus parle dans Matthieu 19, qui le sont par la main des hommes. Ma vie, mon comportement, mon attitude, mes gestes qui peuvent rendre eunuque ce qui m'entoure. J'ai mal, va y reprendre. Sixième étape, la repentance. S'il se repent. La Bible insiste sur la nécessité de la repentance pour effectivement offrir le pardon. Alors, je ne veux pas rentrer dans la polémique à savoir s'il faut toujours attendre la repentance pour pardonner aux gens. Je ne pense pas que ce soit la polémique la plus importante et la plus intéressante. Que cette repentance ait lieu avant ou après l'offre du pardon, il est important qu'elle ait lieu. Et si l'offre de pardon que je fais permet à l'autre de se repentir après, c'est formidable. Mais comment vais-je pouvoir offrir mon pardon, étape 7, si personne ne vient me demander pardon? Comment vais-je pouvoir offrir librement ce pardon authentique que Dieu me demande, si ce pardon n'est pas demandé, si ce pardon n'est pas demandé parce que l'offense est reconnue comme telle? Le pardon qui me permet de déclarer l'autre non coupable, qui me permet de libérer l'autre de sa culpabilité. Le pardon qui me permet de rendre libre, le pardon qui me sort de cette logique de comptabilité du mal qui m'a été fait. Le pardon qui est une œuvre de liberté absolue. Et puis l'étape 8 est là, presque naturellement, qui est la réconciliation. La réconciliation qui est la restauration des relations qui ont été brisées par l'offense. Et puis il y a aussi une étape 9. Alors je sais que les chrétiens n'aiment pas entendre cette étape, mais je le vois en tout cas dans mon ministère et mon travail de relation d'aide, la non-réconciliation. Il n'est pas obligatoire de se réconcilier avec tout le monde. Autant que cela dépende de vous, dit l'apôtre Paul, soyez en paix avec tout le monde. Mais dans cette démarche du pardon, Ce qui est à mes yeux le plus important, hein, c'est vraiment de m'assurer que celui qui a été offensé soit sorti de la colère, soit apaisé et remis ses griefs à Dieu, et véritablement, soit véritablement rentré dans une vraie démarche où il a offert son pardon. Mais après, est-ce que c'est obligatoire de devoir maintenir des relations et se réconcilier avec quelqu'un qui nous a offensés? Je ne pense pas que ce soit sincèrement obligatoire. Le plus important, c'est que je puisse être à côté de cette personne sans avoir envie de lui arracher la tête. Et que je puisse paisiblement assumer sa présence. Sans qu'il soit obligé de rétablir des relations étroites avec lui. Alors c'est mieux quand il y a la réconciliation, évidemment. Mais il ne faut pas mettre un fardeau insupportable sur les épaules des gens. Je conclue. Vous savez, ce que j'aime bien dans cette histoire de Joseph, c'est que Joseph nous dit quelque chose sur le Christ. Joseph est une illustration prophétique magnifique de ce que notre grand Seigneur fera plus tard. Jésus qui nous dit, je vous en prie, approchez-vous de moi. Jésus qui nous dit, je suis Jésus, votre frère, que vous avez vendu. Que vous avez vendu par votre péché. Jésus qui nous dit aussi maintenant, ne vous affligez pas. Approchez-vous de moi. Parce que c'est pour vous garder en vie et vous apporter une grande délivrance que Dieu m'a conduit jusqu'ici. Approchez-vous de moi. Amen.